Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une bonne nouvelle pour la littérature. Depuis que les librairies en France ont pu réouvrir leurs portes, de magnifiques files d'attente se sont formées devant les vitrines pour rattraper les lectures des derniers mois. Et parmi les livres les plus recherchés, beaucoup de polars qui, à cause du confinement, étaient restés sous clé. Ainsi, la revue Alibi, spécialisée dans le genre et qui renaît de ses cendres après une longue pause forcée, retrouve les rayons dès la fin du mois de mai. Un de ses rédacteurs, Marc Fernandez, nous en parlera en fin d'émission. Mais pour commencer, place à l'une des auteurs de polars les plus singulières du milieu, Anne-Laure Kerr, avocate et écrivaine. Elle signe un nouveau roman noir intitulé « Richesse oblige » aux éditions Métellier, où elle met en scène une femme prête à tout pour récupérer son héritage, quitte à contourner quelques lois. Une héroïne de caractère, au même titre que la Daronne, précédent roman de l'auteur qui vient d'être adapté au cinéma avec Isabelle Huppert dans le rôle principal. Le film devait sortir fin mars, la date a donc dû être repoussée, hélas. Nous allons en parler dans un instant avec Anne-Laure Kerr que nous joignons par téléphone. Mais pour le plaisir, écoutons quelques secondes de la bande-annonce de ce film, La Daronne.
Anna Madame Bin Barka, Lia Dartmag, Andisela Lilbia, Jaya Milbe.
Ma bridge sera rare. Brita Yemea Wilmetin. Dis-moi tout de suite si vous êtes des crevards.
Il y a une femme qui deal des tonnes de shit dans Paris. On est incapable de la choper.
Sur la tête de ma mère, c'est de la patate de chez Patate.
Ça fait toujours plaisir hein, quand le client est content du produit.
Bonjour Anne-Laure Kerr.
Bonjour.
Pour commencer, à titre personnel, comment est-ce que vous vivez cette période chaotique ?
Eh bien, comment vous dire ? Comme quelqu'un qui passe à vélo devant des librairies aux grilles fermées. Avec mon livre derrière, enfermé.
Et oui, il est sorti juste avant le confinement.
Voilà. Et qui passe également devant des cinémas fermés avec Isabelle Huppert, des silhouettes d'Isabelle Huppert en taille réelle, grimées en daronne, avec des grilles de cinéma fermées devant.
Là, vous nous racontez, Anne-Laure Kerr, que vous vous promenez en vélo, mais il y a eu une époque où vous étiez peut-être enfermée.
Non, j'ai jamais été vraiment enfermée parce que j'ai travaillé pendant la période de confinement.
Donc, il n'y a pas eu de vacances judiciaires ?
Évidemment, le rythme était considérablement réduit puisque y avait moins d'interpellations dans la mesure où tout le monde était enfermé. Donc, c'est difficile d'interpeller des voleurs quand les rues sont vides ou des voleurs à la tire ou je ne sais pas, des trafiquants de stupes quand on ne peut plus livrer de stupes. Mais il est vrai qu'on a eu des audiences pour des défauts d'autorisation de sortie. Ouais.
Est-ce qu'il y a eu une bonne nouvelle pour vous pendant ces semaines particulières, Anne-Laure Kerr ?
Une bonne nouvelle ?
Oui.
Je n'ai pas été malade du Covid-19, c'est une bonne nouvelle. À part ça, j'ai perdu 2 kilos, ça c'est pas mal aussi.
Moi, je parlerai d'une autre bonne nouvelle, si vous permettez, c'est que, par exemple, les mers et les océans, qui sont importants dans votre nouveau roman, puisqu'il se déroule en partie sur une île bretonne, les eaux ont donc bénéficié d'un répit écologique. Ça doit quand même vous satisfaire, cette conséquence du monde à l'arrêt.
Oui, mais de toute façon, il va redémarrer le monde. Alors, je ne vois pas trop à quoi ça sert, à part avoir fait un baby-boom marin de poissons qui vont être trucidés en masse dans quelques semaines. Donc, tant qu'on n'arrêtera pas l'exploitation avec des gros chaluts du fond de la mer, de toute façon, je vois pas ce que ça change deux mois de calme. C'est pareil pour les oiseaux, c'est pareil pour tout. Hein. Le monde va reprendre exactement de la même manière.
Donc, vous n'êtes pas du tout optimiste ?
Pas du tout, non. Il faudrait que les gens changent totalement leur façon de vivre. Je ne pense pas que les queues qu'il y a devant Sephora et McDonald's montrent que quelqu'un a compris quelque chose.
Il y a des files d'attente aussi devant les librairies.
C'est vrai, mais c'est pas les mêmes.
Parlons avec vous maintenant, Anne-Laure Kerr, de votre nouveau roman qui donc est de nouveau en vente depuis la réouverture il y a quelques jours des librairies, paru aux éditions Métellier sous le titre « Richesse oblige ». C'est un livre qui à la fois s'inscrit à la suite de vos romans précédents, des polars très contemporains liés au monde judiciaire, mais au-delà de la trame sociale, économique, politique, s'ajoute ici une vision historique de notre société avec un récit articulé entre deux époques, les années 1870 et les années 2020, et également une revendication littéraire très forte des univers de Zola, de Balzac, de Mirbeau. On sent clairement que vous avez voulu écrire un roman différent des autres. Pourquoi, Anne Lorker ?
Oui, c'est un roman que je porte en moi depuis longtemps. J'avais lu il y a longtemps Sébastien Roch d'Octave Mirbeau, où à un moment, le personnage principal fait allusion à une vente d'homme, une transaction sur un homme. Et il dit, voilà, mon père est dans la mairie, il négocie pied à pied, sou à sou, pour acheter cet homme que j'aime déjà, qui mourra à ma place. Et puis, trois petits points, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire acheter un homme? Et j'ai commencé à faire des recherches sur ça, l'institution du remplacement militaire. Les gens achetaient un pauvre quand ils avaient tiré un mauvais numéro au sort, pour savoir si oui ou non il partait au service militaire. Et à l'époque, le service était extrêmement long. Je crois qu'il était de 9 ans. Et les bourgeois, ainsi que les propriétaires terriens, achetaient un homme, un pauvre, pour éviter à leur fils de partir au service. Et quand la Prusse a commencé à foncer sur la France comme une locomotive, le cours du pauvre s'est mis à monter à un tel point qu'on ne trouvait plus de pauvres à acheter nulle part. Et l'idée du cours du pauvre qui monte et une pénurie de pauvres, je trouvais ça tellement drôle et tellement romanesque que je me suis dit, là, j'ai un vrai sujet.
Alors effectivement, nous allons planter le décor ou tirer ce fil conducteur entre les deux époques, aujourd'hui et 1870, qui sont reliées donc par votre narratrice, Blanche de Rigny, une femme qui élève seule sa fille et avec peu de moyens parce qu'en raison d'un handicap physique, elle est reléguée à des tâches subalternes, donc mal rémunérées, jusqu'au jour où elle se rend compte par hasard qu'elle est peut-être l'héritière d'une riche famille qui prend sa source au moment de la guerre de 1870. Que représente Blanche pour vous, Anne Lorker ?
Elle représente, à mon avis, toute les 30, 40 ans, enfin, c'est une fille qui est née dans les années 80, ce qu'on appelle des intellectuels précaires, c'est des gens qui ont fait des études supérieures dans quelque chose de si peu anodin, à savoir la littérature. C'est une ancienne thésarde en lettres. Mais quand on est thésarde en lettres, qu'est-ce qu'on fait à part être prof de français? Eh bien, on fait pas grand chose. Et je connais plein de gens qui sont dans cette situation-là, c'est-à-dire qui ont des boulots alimentaires et qui sont des gens extrêmement lettrés et qui gagnent leur vie très difficilement. Et voilà, elle représente tous ces gens-là que je connais, qui sont des intellectuels précaires, quoi.
Et pourquoi est-ce que vous l'avez choisi handicapée suite à un accident de la route ?
Bah parce que je le suis aussi et c'est la première fois que je parle de ça. Je mets un petit peu de moi-même dans chaque roman que j'écris. Et les handicapés sont extrêmement sous-représentés dans la littérature et dans le monde en général. C'est les minorités les moins visibles, à mon avis. Il y a la couleur, l'orientation sexuelle. Ça, on l'expose aujourd'hui, mais le handicap, pas vraiment. Donc voilà, je voulais que mon héroïne soit comme moi, soit une personne handicapée.
Qui a donc eu un accident de voiture comme vous il y a quelque temps. Et là, vous lui choisissez aussi comme meilleure amie une femme très grande qui, elle aussi, souffre d'une maladie génétique. Et son apparence la marginalise également. Et vous écrivez des mots durs sur la façon dont elles sont maltraitées par les gens. On sent une forme de colère en vous, Anne Lorker.
Bah, vous savez, j'ai passé un an et demi à l'hôpital avec des gens qui... Alors moi, évidemment, je suis très peu atteinte parce que évidemment, ça se voit, mais pas trop, quoi, puisque je vais une vie normale. Je boite dès que mon mari me dit que dès que je vais, je sais pas, chercher le sel au restaurant, tout le monde se tourne pour me regarder. C'est quelque chose de qui interpelle le handicap. Surtout, il interpelle encore plus quand une personne handicapée vit de manière normale. C'est toujours étrange. Je sais pas, on devrait se mettre dans un trou. Et moi, j'ai rencontré donc dans cet hôpital pendant un an et demi des gens qui doivent réapprendre à vivre, mélangé à des gens qui sont nés avec des handicaps, et les uns et les autres, parce que quand tout d'un coup une vie est coupée en deux et qu'il faut réinventer totalement une manière de faire, une manière de vivre, d'exister, de bouger, de tout, eh bien, c'est vrai que des gens qui sont nés différents aident beaucoup dans ces situations. Enfin, moi, en tous les cas, ça m'a aidée. Donc, c'est pour ça. Hildegarde, elle est très, très grande, comme moi, d'ailleurs, aussi.
Oui, vous avez les deux caractéristiques, alors.
Voilà. Voilà. Bon, je ne fais pas 1m90 en étant une grande araignée, mais voilà, c'est les gens qui sont atteints de ce syndrome de Marfan, il y en a des particulièrement spectaculaires.
Et sous prétexte donc qu'elles sont différentes physiquement, on les traite aussi différemment. C'est-à-dire qu'on ne fait pas appel à leur intelligence comme n'importe quelle personne constituée. Leur entourage part du principe qu'elles n'ont pas un cerveau comme les autres.
Mais ça, par exemple, vous êtes dans la rue, vous avez une personne handicapée et puis une autre, et vous n'irez jamais spontanément vers la personne handicapée pour lui demander un chemin. Or, la plupart sont tout à fait intelligents et normaux, hein. Mais personne songera à leur demander quelque chose. Et ces gens sont totalement sous le radar. Et dans La Daronne, dans mon précédent roman, j'ai un peu fait la même chose. C'est-à-dire que Madame Tout-le-Monde, une femme gris-souris, interprète judiciaire, passe totalement sous les radars quand elle fait quelque chose de répréhensible. Là, c'est pareil. Comme on les voit pas et qu'elles sont totalement transparentes et qu'elles sont donc handicapées, donc présumées être complètement débiles, eh bien, personne se doute de ce qu'elle trame. C'est ça qui est drôle. Mmh. C'est la transparence de l'handicapé.
Donc, la littérature à la fois pour mettre en lumière des personnes dites invisibles et en même temps pour retourner cette situation à l'avantage de ces personnes qui ne sont certainement pas victimes.
Voilà. Je déteste les victimes. Ça me déprime. Et dans mes romans, les petits finissent toujours par gagner. C'est toujours des gens totalement à la marge, pauvres ou cassés ou insignifiants ou moches ou désargentés, alcooliques. Enfin, des gens dans la marge qui finissent par avoir raison des plus horribles.
Donc, c'est aussi une façon pour vous, Anne Lorquer, la fiction, de rétablir une forme de justice qui n'existe pas dans la vraie vie.
Oui. Oui, et puis c'est très personnel aussi, hein. J'ai pas une vie facile et mes parents non plus. Oui, c'est une façon, on ne rêve pas plus et on n'imagine pas plus que ce qu'on est soi-même, hein.
En tout cas, il y a une forme de jubilation dans votre écriture qui est évidente et qui fait grandement plaisir à lire. Et c'est ce qu'on voit ici avec Blanche, puisque enfin la chance va l'aider un peu en découvrant. Je reviens au roman, que son patronyme de Rigny, qui n'a rien à voir avec les noms bretons de son île natale, vient en effet d'une riche lignée parisienne et qu'elle serait l'arrière-petite-fille d'un certain Auguste, ce fils d'industriel qui aurait échangé sa place contre un autre homme parti à la guerre. Donc on écrit aussi parce qu'il y a des choses qui choquent et qu'on a envie de mettre noir sur blanc et de dire et de se poser la question que voilà, il y a un siècle, la vie d'un homme était marchandable. Est-ce que aujourd'hui, ce ne serait pas toujours le cas ?
C'est toujours le cas. De toute façon, vous savez, la transaction sur les hommes, c'est quelque chose qui s'est fait de 1812 à 1871. On est autour de l'abolition de l'esclavage. Donc, acheter quelqu'un, c'était quelque chose qui était dans les mœurs à l'époque, qui n'était pas choquant. Mais l'abolition de l'esclavage, elle s'est faite non pas pour des raisons de grande humanité, elle s'est faite pour des raisons économiques. Un esclave, c'est un bien meuble et ça coûte cher. Faut l'entretenir, faut le nourrir, faut le soigner. Voilà, il faut y faire attention parce que c'est une possession matérielle. Alors qu'un travailleur précaire qui est corvéable à merci, qu'on paye rien du tout et dont on n'est pas responsable et qui va dormir chez un marchand de sommeil, coûte finalement beaucoup moins cher. Donc l'économie y a gagné à l'abolition de l'esclavage parce qu'en fait on a exactement la même chose aujourd'hui, sauf que ce sont des gens dont on n'est pas responsable.
Donc c'est une vraie critique sociale.
Absolument. On l'a bien vu avec le confinement. On crie « Ah, les premières lignes, après l'audition, les premières lignes, vive les premières lignes !» Les premières lignes, elles vont pas gagner un sou de plus. Donc,
de même que vous fustigez, Anne Lorquer, les magouilles, la corruption, la pollution, le mépris des riches de génération en génération. En même temps, est-ce que tout ça n'est vraiment propre qu'aux riches ?
Ce que je ne comprends pas, en fait, c'est quel processus, qu'est-ce qui passe à travers la tête de certaines personnes de toujours avoir vouloir plus. Je ne comprends pas parce que ça n'apporte rien de plus, ni bonheur, ni rien d'autre. Je ne comprends pas à quoi rime le fait de s'enrichir au point d'avoir un patrimoine qui correspond au PIB d'un pays. Je ne comprends pas. Je sais pas, une volonté de puissance extrême et une volonté de destruction, puisque l'accaparement des richesses comme ça entraîne obligatoirement la pauvreté, le malheur et la destruction. Donc il doit y avoir quelque chose comme ça, ouais.
En tout cas, vous trouvez la réponse sur le papier, Anne Lorquer, parce que votre personnage, Blanche, elle va trouver un moyen de rééquilibrer ces injustices sociales, quitte d'ailleurs à ne pas respecter les lois. Ça vous va, vous, comme moyen de défense, alors que vous êtes avocate pénaliste ?
Ah ben oui, absolument. Enfin, ça, c'est parce que je suis légèrement anarchiste sur les bords, quand même, comme vous avez pu vous en apercevoir.
Oui.
Quand il n'y a pas de victime, quand il n'y a pas de dommage à la santé publique, c'est l'ordre qu'on préserve. Voilà. Moi, l'ordre, bref.
Et que dit le barreau quand il lit vos romans ?
Ils sont très contents.
C'est vrai ? Ça ne les choque pas ?
Le barreau.
Et la magistrature en général ?
La magistrature, vous savez, il n'y a pas que des gens complètement étroits d'esprit. Il y a aussi des magistrats assez ouverts. Hein. Je m'en suis aperçue à propos de toutes les lois liberticides qui ont eu cours pendant le confinement et qui ont toujours cours d'ailleurs, notamment celle qui a été pondue par notre ministre de la Justice à propos du renouvellement automatique des mandats de dépôt. Eh bien, il y a beaucoup de magistrats qui ont défendu qui se sont mis du côté des avocats et pas les moins répressifs. Hein. Mais jamais depuis la libération, on ne s'était à ce point-là essuyé les pieds dans les libertés publiques et dans la Convention européenne des droits de l'homme. Jamais.
Mais en même temps, il y a quand même une forme de provocation chez vous, Anne Lorquer, parce que, par exemple, aussi dans votre roman précédent, La Daronne, votre narratrice qui était au service de la justice, puisqu'elle était interprète pour la justice, elle contournait allègrement aussi les lois pour parvenir à ses fins.
Bah, c'est quand même le quotidien de mon travail, c'est de défendre des gens qui contournent les lois. Donc, ça me donne accès à... Et puis, il faut dire, c'est quand même quelque chose, les gens en rêvent secrètement, en disant « Ah, si je pouvais, je ferais ». C'est une façon de s'évader aussi, d'écrire ça dans les romans. Parce que les romans policiers, c'est toujours des policiers qui arrivent à rétablir l'ordre. Moi, c'est exactement l'inverse. Ce sont des personnages qui sèment le chaos. Et pas un lecteur, je n'ai pas entendu un lecteur de tout ce que j'ai vu dans toutes les interventions que j'ai faites, pas un lecteur n'a relevé, par exemple, que La Daronne était un livre profondément immoral.
Bien sûr.
Pas un seul ne m'a dit, mais ce que vous avez écrit est immoral. J'aimerais bien savoir pourquoi. Tiens, vous êtes lectrice. Pourquoi ?
Pourquoi je le trouve immoral ?
Pourquoi vous ne le trouvez pas immoral ?
Mais si,
pourquoi est-ce que personne s'en offusque ?
Mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Je dis qu'il y a une forme de provocation chez vous, puisque à la fois vous défendez les lois et à la fois dans vos romans, vous mettez en scène des personnages qui contournent ces lois.
Alors, je ne défends pas les lois, je défends les gens.
C'est vrai. Mais grâce aussi à des lois.
Tout à fait. Mais je ne défends pas les lois. Hein. Je défends les gens qui enfreignent la loi. C'est pas la même chose.
Donc, Anne Lorquer, vous revendiquez l'immoralité de vos romans.
Je revendique l'immoralité qui nous permet de voyager de mes romans, ouais.
Encore un mot, Anne Lorquer. Est-ce que vous avez écrit ces deux derniers mois ?
Absolument pas. Absolument pas. Alors, absolument pas. Rien que la perspective de m'asseoir devant un ordinateur me donnait carrément des haut-le-cœur. Quand vous écrivez un livre qui est enfermé dans les librairies, qui n'a pas eu de carrière en fait, puisque je devais faire des salons, notamment aller à Lyon pour le salon du polar, qui est la grande messe du genre, de même que les dédicaces en librairie, j'ai rien pu faire, tout a été annulé. Et puis, oui, il y a un côté tout ça pour ça qui donne pas franchement envie de se ruer sur la prochaine œuvre. Hein. Et puis, voilà, mon livre, il n'a pas encore eu de vie. Donc, j'attends un peu que le cadavre se remette à remuer. Bon, puis on verra après. Et je voudrais que la période passe aussi, parce que j'espère qu'aucun écrivain n'aura l'idée d'écrire un livre sur la période du Covid, genre il tombe amoureux pendant le Covid, ou meurt sous le Covid, ou des trucs de ce genre-là, ou mon nombril pendant le Covid, parce que tout le monde aura envie de l'oublier de cette période. Donc il faut trouver une source d'inspiration ailleurs. Et puis, qui vous dit que septembre, ça va pas être de nouveau une période de Covid? Personne ne sait de quoi demain sera fait. Donc, on va attendre un peu.
Alors, je vois bien que jusqu'au bout, Anne Lorquer, vous n'êtes décidément pas optimiste.
Peut-être, voilà. Je sais pas. On sait tellement rien qu'on en est à mesurer le taux d'infection de la population parisienne dans son urine, dans les eaux à retraiter. Alors, vous voyez, on ne sait pas. Regardons notre urine jusqu'au mois de septembre, on verra si ça reprend. Voilà mon mot de la fin.
Alors, ce ne sera pas le mien, parce que justement, si on ne sait rien, on peut espérer le tout. Et moi, je ne serai pas aussi pessimiste, parce que votre livre va commencer sa deuxième vie. Il va être lu, vendu en librairie.
Ah, j'espère.
Et puis, vous allez rencontrer vos lecteurs. Ça, j'en doute pas une seconde. Et le film sortira aussi, et vous continuerez d'écrire Anne Lorquer.
Eh bien, merci beaucoup. Juste un petit mot pour dire qu'un jour, je me suis retrouvée, donc c'était en Corse pour la Daronne, et puis on m'a demandé ce que j'écrivais, et je racontais cette histoire de remplacement militaire, et il y a 5 ou 6 mains qui sont levées dans le public en disant « Ah, mon grand-père était remplaçant. Ah, mon arrière-grand-père s'est vendu. » C'est quelque chose qui concerne beaucoup, beaucoup de familles françaises, en fait. C'est ça qui est assez drôle.
Dont on va se rendre compte à la lecture du roman. Merci beaucoup Anne Lorquer. Je rappelle donc le titre de ce nouveau roman, Richesse oblige, qui est apparu aux éditions Métellier.
Merci beaucoup.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Or we can be heroes just for one day.
Littérature sans frontières.
Bonjour Marc Fernandez.
Bonjour.
Vous êtes avec Paolo Bevilacqua, le co-rédacteur en chef de la revue Alibi, qui renaît après 5 ans d'absence. Alibi, qui est la revue référence de Polar, on peut dire ça ?
On peut dire ça, oui. Elle a connu une première vie entre 2011 et 2015. Et on avait créé cette revue avec Paolo Bevilacqua, Jean-Christophe Rampal et quelques autres fous qui nous avaient aidés à monter ce magazine, uniquement vendu en librairie à l'époque. Et on va faire pareil maintenant. Et voilà, on avait tenu 4 ans. C'était une époque un peu béni pour nous, parce qu'on pouvait rencontrer tous les auteurs de polar qu'on voulait, c'était chouette. Mais la réalité économique nous avait rattrapés. Et puis, 4 ans après, par Alice Monéger, qui est la directrice éditoriale de ce nouveau projet, on a pu relancer la revue avec quelques petits aménagements, qui sera du coup publié au sein des éditions d'Argo.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler la ligne éditoriale de cette revue Alibi ?
Alors Alibi, c'est le polar au sens large, mais le plus large possible. C'est pas une revue littéraire. Évidemment, on parle des auteurs, on parle des livres, mais on parle aussi de vraies histoires criminelles. On rencontre des voyous, des flics, des avocats. Je crois que c'est ce qui avait plu à l'époque et c'est ce qui continue à plaire aux lecteurs, c'est ce mélange entre l'interview d'un grand auteur de polar et à côté un reportage au sein d'une institution policière ou judiciaire, la rencontre avec un avocat ou une avocate pénaliste, avec un voyou, avec des flics. Nous, on voit le polar comme ça, au sens le plus large, on parle de séries télé aussi, et on s'interdit rien. L'idée, c'est de voir le monde, en fait, à travers cette lunette qu'est le polar, puisque c'est le genre littéraire le plus réaliste qui soit, et on pense que tout est polar.
Quel est le sommaire de ce prochain numéro, premier bis.
Alors, ouais, on repart au numéro 1. On s'est posé la question, on savait pas trop. Et puis bon, comme on change de format aussi, le format va être un petit peu plus grand que ce qu'il était auparavant. Auparavant, il avait un format presque carré. Là, on part sur un format un peu plus grand. Donc, on a dit, bon, allez, on repart au numéro 1. Et on vous propose un dossier assez fouillé sur les cold cases, donc les histoires, les affaires non résolues.
En France ou dans le
monde ? En France et à l'étranger, avec l'histoire de cette blogueuse, journaliste qui a traqué pendant des années le Golden State Killer aux États-Unis, tueur en série, qui a été arrêté juste il y a quelques mois. Malheureusement, cette traque lui a tellement bouffé la vie, pardon pour l'expression, qu'elle en est morte et elle n'a pas pu voir l'arrestation de celui qu'elle a traqué. Et grâce, c'est un peu grâce à elle que les policiers américains l'ont attrapé. C'est une histoire assez folle.
Donc une histoire vraie.
Une histoire vraie.
Que ouais, vous ouais. restituez par une enquête, voilà. Par un portrait.
Ouais, qui est écrite par Cécile Delarue, donc, qui était journaliste, qui était à Los Angeles, qui vient de rentrer en France, mais donc qui connaissait bien l'histoire. On a également eu le nez fin, puisqu'on a une grande interview de Roche Dizem, réalisée juste avant son César. Et Roche Dizem est un acteur réalisateur qui est pour nous vraiment marqué polar, qui aime le polar aussi bien dans ses rôles que dans sa réalisation. Enfin, il a quand même réalisé Omar Radad notamment. On a également une rencontre assez intéressante avec une capitaine de police qui s'appelle Agnès Naudin, qui travaille notamment en brigade des mineurs. On a 70 romans chroniqués, enfin 70 livres chroniqués, pas que des romans, des documents, mais aussi des BD. Et puis la grande nouveauté par rapport à la version précédente, c'est que étant aujourd'hui publié par les éditions d'Argo, on a une petite accointance BD qui pointe son nez, et du coup on a rajouté une rubrique BD reportage. Et dans ce premier numéro, on a envoyé un dessinateur qui s'appelle Thomas Gilbert parcourir les catacombes de Paris avec la brigade des catacombes, puisque les policiers ont une brigade chargée de surveiller les catacombes. Donc on a plongé dans les entrailles de Paris. Ça sera un reportage tout en dessin. C'est une narration aussi intéressante, on trouve. Et on a une nouvelle rubrique aussi qu'on a intitulée Déposition, dans laquelle on demande à un écrivain de se mettre un peu dans la peau d'un journaliste et d'écrire un sujet à la première personne sur une thématique qui lui tient à cœur. Dans ce premier numéro, c'est Christophe Guillaumeau, donc qui est auteur chez Liana Levy et qui est également policier, qui nous a fait un texte poignant sur le suicide des policiers, puisque lui-même a dû vivre ça. Un de ses adjoints s'est suicidé il y a quelque temps, et je peut vous annoncer en exclusivité que dans le numéro 2, c'est Emma Becker qui nous fera un texte sur son expérience en maison close en Allemagne. Donc voilà, on s'est interdit vraiment rien, c'est des sujets qui sont... le suicide des policiers, c'est très polar si on veut, puisqu'il y a les policiers. Emma Becker, c'est le thème de la prostitution, et on va partir sur des sujets comme ça. Il y a toujours des belles photos, des belles illustrations, un portfolio dans chaque numéro avec un sujet, voilà, tout en images. On s'est fait plaisir sur ce nouveau premier numéro, et on espère que les lecteurs auront autant plaisir à retrouver une revue qu'ils avaient connue il y a quelque temps.
Le nouvel alibi, donc. Merci Marc Fernandez.
Merci Catherine.
Littérature sans frontières. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire. Solène.